VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Ici à Bamako, 13h à Bujumbura, bienvenue à notre journal. Au Mali, libération de 3 collaborateurs du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, enlevé la semaine dernière dans le nord-est du pays, et que le groupe djihadiste en Sardine a affirmé retenir. C'est ce qu'annonce aujourd'hui sur son compte Twitter Peter Moore, président du CICR. La meilleure nouvelle que nous pourrions avoir, nos 3 collègues du Mali sont libres, sains et saufs, a déclaré le numéro 1 du Comité international de la Croix-Rouge. Cette information est confirmée, a été confirmée par la suite à l'AFP par le porte-parole du CICR à Bamako, Valérie Mbouanana, joint depuis Dakar. Nigeria, Amnesty International accuse aujourd'hui dans un rapport l'armée nigériane d'avoir tiré délibérément sur 350 musulmans de la minorité chiite avant d'enterrer leur corps dans des fosses communes et de détruire les preuves de ce carnage. Les détails avec Michel Joseph.
Les 12 et 13 décembre, des affrontements s'étaient produits à Zaria, fief du mouvement islamique du Nigeria, IMN, dans l'état de Kaduna, dans le nord du Nigeria. Des membres de l'IMN en procession religieuse avaient bloqué le convoi du chef d'état-major des armées, le général Tukur Youssouf Bouratai, provoquant une répression brutale de l'armée. Dans son rapport, Amnesty International juge sans fondement les allégations de l'armée selon lesquelles les partisans de l'IMN auraient tenté d'assassiner le général, une accusation formellement démentie par le groupe chiite. L'armée, qui a souvent été accusée d'abus à l'encontre des civils dans la lutte contre l'insurrection sunnite Boko Haram, maintient que ses troupes ont réagi à Zaria de manière appropriée. Selon elle, le chef chiite est en convalescence et le bilan des violences de Zaria ne dépasse pas les 7 morts.
En Gambie, un journaliste gambien jugé pour sédition s'est échappé de l'hôpital de Banjul où il était soigné. C'est ce qu'annonce l'AFP. À la JCC, directeur de la radio privée Teranga FM avait été arrêté en juillet dernier par la police secrète du régime du président Yahya Jammeh, qui dirige la Gambie d'une main de fer depuis 1994. Monsieur Cissé ne s'est pas présenté au tribunal mercredi et un membre de l'administration pénitentiaire Khalifa Bojang a dû reconnaître devant le tribunal que le prévenu ne se trouvait plus en détention. En Guinée-Bissau, les écoles publiques sont paralysées par un mois de grève déclenchée par les enseignants. Ils réclament une amélioration des conditions salariales et de travail. Le mouvement serait suivi à 100%. Afrique de l'Est et du Centre maintenant, au Burundi, le parquet a demandé aujourd'hui la perpétuité pour tous les 28 présumés putschistes jugés dans le procès devant la cour d'appel de Gitega dans le centre du pays. Les 4 généraux condamnés à la prison perpétuelle en première instance, dont l'ancien ministre de la Défense Cyril Ndaï Rokiye, reconnaissent leur participation dans la tentative de coup d'État pour, disent-ils, sauver la nation en danger. Mais ils affirment n'avoir tué personne ni détruit aucun et l'édifice. Les présumés putschistes nient aussi le lien entre les manifestations d'avril contre un troisième mandat pour le président Pierre Nkurunziza et le putsch manqué. Plus de détails avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Après 9 jours d'audience publique, le procès en appel des présumés putschistes de mai dernier s'est clôturé ce vendredi. Le parquet demande une réclusion à perpétuité pour les 28 présumés putschistes. En outre, le procureur demande leur interdiction de travail dans la fonction publique pendant 20 ans. Le ministère public a essayé de convaincre la cour sur le lien entre le coup d'état du 13 mai dernier et les manifestations anti-troisième mandat. Le présumé numéro 2 du putsch manqué, le général Cyril Ndaï Rokiye, qui a plaidé coupable de tentative de coup d'état sans la présence de son avocat, encore une fois affirmé qu'il cherchait le retour à la légalité constitutionnelle, car l'accord de paix et de réconciliation d'Arusha venait d'être violé avec le troisième mandat controversé du président Pierre Nkurunziza. Le général Ndaï Rokiye indique avoir agi pour défendre la population, alors que les manifestations pacifiques contre le troisième mandat du président Nkurunziza étaient durement réprimées par certains membres de la police et de l'armée burundaise. Mais il nie toutes les autres accusations de destruction des bâtiments et d'assassinat de 41 policiers et 9 militaires, et par conséquent, ne pourra pas payer les dommages et intérêts estimés à plus de 10 millions de dollars américains. La cour d'appel de Gitega a déclaré qu'elle va rendre le jugement en ayant 30 jours. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Entretien exclusif du nouveau président centrafricain à VOA Afrique peu après sa rencontre hier soir avec le secrétaire général de l'ONU à New York. Faustin Archange Touadéra reconnaît que la situation économique et les problèmes sécuritaires restent difficiles en République centrafricaine. Son pays, dit-il, a besoin de la communauté internationale. Il affirme toutefois tenir compte de l'ensemble de la classe politique de la RCA pour faire en sorte que les centrafricains fassent confiance au gouvernement pour les diriger vers la paix et la réconciliation nationale. Lors de son tête-à-tête avec Ban Ki-moon, il a évoqué aussi le problème de l'embargo sur les armes et les accusations d'abus sexuels contre des casques bleus en RCA. Il en parle dans cet extrait de l'interview qu'il a accordé à Jacques Aristide. Nous écoutons Faustin Archange Touadéra.
Bien entendu, nous ne pouvons pas venir voir le secrétaire général sans parler de cette question. Comme vous le savez, dans très peu de temps, nous allons, avec l'Union européenne et les Nations unies, commencer la formation ou tout au moins la réforme du secteur sécurité. Évidemment, pour refonder donc notre armée, nous avons besoin que cet embargo soit levé ou tout au moins dans une mesure permettant justement de rendre opérationnels les éléments qui seront formés. Donc nous avons bien entendu abordé cette question. Et je pense que dans le prochain Conseil de sécurité, le problème peut-être sera posé, d'après ce que disait le secrétaire général.
Alors parlons maintenant des accusations d'abus sexuels des forces internationales. Que fait la justice centrafricaine à ce sujet? Quelle assistance est apportée aux victimes?
Vous savez, c'est... La question d'abus sexuels est une question grave qui touche toute la société. Tous les Centrafricains sont touchés par cette situation. Mais ce que nous voulons, c'est que la justice soit rendue. Et qu'au jour d'aujourd'hui, par rapport aux enquêtes qui sont menées, les autorités centrafricaines ne sont pas souvent associées à cela. Notre souhait, c'est ce que j'ai dit au secrétaire général, que s'il y a des cas qui sont avérés, que au moins nous soyons informés et que nous soyons associés à la recherche de la vérité à ce niveau-là. Nous allons aussi, compte tenu des dispositions actuelles concernant cette situation, faire aussi, dans le cadre bilatéral, discuter avec les pays contributeurs pour accélérer le processus. Parce que dans les dispositions actuelles, la justice ne pourrait se faire que par rapport aux pays aux contributeurs. Donc au jour d'aujourd'hui, les choses traînent un peu à ce niveau-là. Nous allons sensibiliser nos amis, ceux qui ont contribué au niveau des forces pour que la procédure soit accélérée, pour que la justice soit rendue à ces victimes.
Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra interviewé au siège de l'ONU à New York. L'intégralité de cette interview sur voaafrique.com. Au Tchad, le président sortant Idriss Déby Itno est réélu pour un cinquième mandat avec 61,56% des voix. C'est à l'issue de la publication du résultat de l'élection présidentielle du 10 avril dernier par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, à N'Djamena. Plus de précisions avec notre correspondant à N'Djamena, André Kodmajinga.
Idriss Déby Itno dépasse largement son principal opposant Saleh Kebzabo, qui lui totalise 12,80%. Le maire de la ville de Moundou, capitale économique du Tchad, Laouken Kourayo Médard, arrive en troisième position avec 10,69%. De la place de la nation, se tient en face de son palais rose où il suivait les résultats en direct à travers un écran géant. Idriss Déby Itno a dédié cette victoire à tout le peuple tchadien.
Aux 108 partis politiques alliés, c'est votre victoire. Le peuple tchadien vient de nous dire que nous voulons poursuivre avec le candidat de tous ces jeunes et jeunes et de tout le peuple tchadien de tout horizon.
Selon la Commission électorale nationale indépendante, le taux de participation est de 76,11%. L'opposition n'a pas encore réagi. Reconnaîtra-t-elle la victoire du président sortant ou sa menace de former un gouvernement de salut national si la CENI lui déclare gagnant au premier tour reste en vigueur? Attendons de voir. André Kodumadjingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Et pour terminer, un premier pas important aujourd'hui vers la ratification de l'accord de Paris sur le climat. Plus de 160 pays vont signer au siège des Nations Unies à New York ce traité international qui vise à ralentir le réchauffement de la planète. Une grande messe onusienne à laquelle doivent prendre part plus d'une soixantaine de chefs d'État et de gouvernement, de même que des dizaines de hauts responsables. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.